Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Vous écoutez Fréquence Mistral, il est midi 22 et nous sommes avec Julien Bénard, photographe, et Annie Coquelin, peintre, sculptrice et potière, pour parler de leur exposition Écho d'ailleurs. Alors, pour commencer, je vous propose de vous présenter. Alors, je ne sais pas si chacun veut se présenter ou peut-être vous voulez vous présenter l'un l'autre.
Eh bien, moi, Annie Coquelin, donc je suis normande d'origine depuis 1986. Je suis arrivée dans le Briançonnais en tant qu'infirmière. Voilà mon métier que j'ai jusqu'à la retraite. Je suis à la retraite maintenant. Et en parallèle, j'ai fait une formation aux Beaux-Arts. De peintre et potière, céramiste. Et voilà. Après, ça a déboulé sur la sculpture.
En parallèle de votre métier d'infirmière.
Oui.
Déjà, quand vous exerciez, vous étiez déjà artiste.
Tout à fait. J'ai fait une formation professionnelle à côté, en parallèle.
Et ça fait longtemps que vous êtes à Briançon ?
Oui, ça fait depuis 39 ans.
39 ans, oui,
voilà.
Quand même, une vraie briançonnaise.
Voilà, j'étais adoptée par les briançonnais, par mon métier déjà en libéral. Bon, bah, vaut mieux se faire adopter. Et puis, j'ai adoré la région, la beauté de la montagne. J'ai été vraiment scotchée par les montagnes. Moi, je suis normande, donc j'allais pas au ski étant petite. Hein, et j'ai découvert tous les sports d'hiver et d'été, et puis j'ai adoré, j'ai été bien accueillie par plein de gens, en fait.
Par les locaux. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la montagne de ta Normandie ?
C'est un remplacement, un appel pour un remplacement d'une infirmière libérale pour 2 mois. Et au bout de 2 mois, on s'est dit l'une et l'autre, ça serait bien de travailler ensemble, etc. Et puis on s'est associés. Et après, elle est partie, je me suis associée avec d'autres collègues. Et voilà, j'ai tenu 25 ans à mon cabinet. Je dis mon cabinet parce qu'après, j'étais un peu gérante du cabinet. Et en 2009, j'ai décidé de changer un peu de carrière. Voilà, d'approfondir aussi une formation en tant que potière. Et me professionnaliser. Et puis, je faisais quand même des remplacements infirmiers parce qu'il faut
vivre. C'est devenu secondaire.
C'est devenu quand même principal financièrement. Voilà.
Oui.
Parce que, faut acheter du matériel, faut se mettre quand même pendant un certain temps. Sans revenu, sinon. Hein. Donc, je faisais des remplacements dans les maisons médicales. Et puis, je faisais ça. Et puis, autre chose, de la vente. Je faisais plein de choses. Et puis aussi, en tant que soignante quand même, je faisais des accompagnements palliatifs de personnes. Pendant quelques mois jusqu'à la fin.
Et ton art, tu l'as développé donc en parallèle et tu as commencé par la poterie, tu disais ?
Non, par la peinture. Mais je suis d'une famille où il y a beaucoup d'artistes.
Donc tu as baigné dedans.
Déjà par mes parents, ne serait-ce que ma mère nous faisait peindre toute petite des boîtes de bonbons. Mes parents étaient pâtissiers confiseurs. Donc déjà, il y a un art. La construction de quelque chose. Et j'ai mon frère aîné nous a un petit peu influencés tous. C'est un sculpteur, c'est un dans le métal. Voilà. Et l'approche d'autres artistes, connus, pas connus. Voilà. Mmh. Voilà.
Et toi, tu as commencé par la peinture ?
J'ai commencé par la peinture J'ai affiné un peu les techniques parce que on fait beaucoup d'erreurs et donc j'ai voulu prendre des cours et après j'ai fait des rencontres et une fois que je me sentais à l'aise pour faire la première expo, je me suis lancée en 2007, je crois, un truc comme ça.
Et tu t'es diversifiée par
Et
la
je
suite.
Me suis diversifiée avec la terre.
La terre, voilà. Poterie, sculpture.
Poterie, sculpture, et puis après, on va toujours avec la soudure, etc.
On reviendra plus précisément sur l'exposition et comment tu as travaillé. Et toi, ouais. Julien ?
Et moi, écoute, moi je suis photographe depuis une quinzaine d'années, après une autre vie professionnelle qui n'avait rien à voir. J'habite à Servières depuis 2020, même si je connaissais Servières avant, puisque je venais en vacances depuis tout petit. Mon travail de photographe, il est assez varié. Alors je définis que j'ai plutôt une sensibilité artistique, poétique et plasticienne. Mais dans tout ça, il y a du portrait, il y a de l'autoportrait, il y a du paysage, il y a du travail plus plasticien urbain. Il y a aussi beaucoup de travail de presse à un moment en particulier sur l'arrivée des migrants dans le Briançonnais. Voilà. Et mon plaisir, c'est aujourd'hui, puisque ça fait quand même quelques années, c'est vraiment la sensibilité, c'est le fait de pouvoir créer un monde plus ou moins réel, plus ou moins imaginaire, à travers des tirages, à travers des expositions, des lieux que j'habite, si possible avec d'autres artistes, parce que je trouve que le dialogue des disciplines, qu'elles soient plasticiennes ou même spectacle vivant, amène toujours quelque chose de beaucoup plus fort en termes d'âme, en termes de sensations, et que je suis, moi, en tant que visiteur-spectateur, très sensible à l'expérience que je vis si je vais dans une exposition ou à un concert. Pour moi, j'espère la même chose, c'est-à-dire partir un peu ailleurs. Et donc, c'est j'essaie de plus en plus de me limiter à faire ça. Et là, ça fait un an et demi que je suis... J'ai de la chance, puisque grâce à la maison de Françoise et Mamé à Servières, qui a été mon premier aussi sujet de travail d'exposition à Servières, et ben du coup j'ai un écrin pour proposer des choses, et c'est assez extraordinaire, parce que c'est avoir la possibilité de faire, enfin créer des œuvres, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose pour lequel on a du plaisir, on a de l'excitation, on a aussi du labeur, mais pouvoir le montrer d'une manière qui nous plaît, pouvoir le montrer d'une manière où on sent qu'il y a du sens pour les gens qui viennent le voir, ça c'est vraiment un cadeau.
Oui, puisque cette maison, donc c'est la maison on va situer de Françoise et Mamé, c'est la maison dans laquelle est exposée Écho d'ailleurs en ce moment, et c'est une maison, on y reviendra peut-être plus tard, mais que toi tu aussi animes en fait, c'est-à-dire que tu as fait ta première exposition, mais tu organises des événements dedans, tu invites d'autres artistes, tu la fais vivre. C'est bien ça.
Absolument.
Super. Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, mais j'aimerais pour l'instant qu'on parle de cette exposition. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que c'est autour de cette exposition, de ce projet, ou vous vous connaissiez déjà ?
Non. Moi, j'habite Servières maintenant depuis 5 ans avec ma fille et mon petit-fils. Et on s'est rencontrés dans la rue. Julien en train de photographier...
Je ne sais quoi.
Avec son appareil photo. Avec son appareil photo. Et donc, on a sympathisé petit à petit. En fait, c'est en quelques mois. Et après, on est devenus de bons copains.
On a monté ensemble avec une troisième artiste de Servières, puisqu'il y a quand même...
Oui.
Il y a de la création à Servières qui s'appelle Samantha Nicolas. On a monté tous les trois des ateliers d'art plastique pour les enfants du village et les enfants de passage. Donc, on a commencé travailler et à créer ensemble il y a un an et demi maintenant.
Oui.
Donc c'est comme ça que on s'est croisés par hasard et ensuite on a sympathisé. À Servières, on se promène, on se croise, comme dans tous les villages en fait.
Oui.
Oui, et puis voilà, on a des affinités en tant que créateurs et puis pour arriver à notre exposition actuellement, on a déjà fait une exposition ensemble sur le thème de la ferme. Donc Julien avec les photos des animaux de la ferme du Lasseron. Surtout, je pense. Ouais. Et puis moi, avec mes petites poules, mes petites vaches en peinture. Voilà, et on a fait ça en décembre, pendant toutes les vacances de décembre. Et voilà, et après, on s'est...
Après, je peux expliquer la genèse de l'exposition, voilà. Parce qu'elle vient ni de Denis ni de moi, venir, ouais. En fait.
Ah d'accord, elle vient de l'extérieur.
Non, elle vient de l'extérieur, elle vient d'un collectif de comédiens qui écrivent des textes sur des situations vécues par les exilés. Eux, ils s'appellent Aux frontières de l'absurde. Et Eliane, qui fait partie du collectif, m'a contacté fin 2024 en me disant qu'ils aimeraient bien venir dire leurs textes chez Françoise et Mamé. Donc on s'est rencontrés tous les deux, et puis le courant est bien passé. Moi, j'ai trouvé le projet émouvant, très intéressant, et puis assez audacieux, parce qu'il n'est pas que confortable. Donc j'ai dit oui. Et juste après, je me suis dit, s'ils viennent jouer, qu'est-ce que je mets sur les murs de la salle de Françoise et Mamé? Bon, c'était évident, parce que la série que je présente, qui elle-même s'appelait déjà Écho d'ailleurs à l'origine, est une série de portraits de personnes exilées que j'ai rencontrées dans le Briançonnais entre 2017 et 2023. Voilà, donc c'est né comme ça. Et à ce moment-là, on était déjà en train d'exposer effectivement à Noël avec Annie. Et Annie, tu m'as dit, moi j'ai aussi une grosse sensibilité sur l'ailleurs, sur le voyage, sur l'exil, parce que par ailleurs, tu as beaucoup voyagé. Et tu m'as proposé de participer à cette deuxième exposition ensemble. Donc on a commencé à avoir du coup un dialogue artistique cette fois un peu plus. Et je t'ai venu chez moi, je t'ai montré tous les portraits, qui sont donc des portraits en noir et blanc, avec de base c'est des portraits documentaires, mais qui ont, je pense, une certaine poésie. Et moi je t'ai dit ce que j'aimais dans ton travail, et après t'as fait ton travail à ta manière.
Voilà.
Et c'est ça qu'on présente. Donc beaucoup de nouvelles créations pour ta part.
J'allais demander à Annie, du coup tu as créé pour l'exposition.
Oui. J'avais d'accord. déjà certaines, notamment sculptures et peintures. Déjà en réserve, mais après sur le sujet propre, oui, j'ai fait des sculptures et quelques peintures totalement dans le sujet. Ouais.
Alors j'aimerais revenir sur vos œuvres à chacun et chacune. On peut commencer par toi, Annie, vu que tu avais la parole. Donc tu as créé, comment as-tu réussi à donner forme à ce sujet qu'est l'exil, l'invitation au voyage, Écho d'ailleurs?
Alors, j'ai relu quelques articles sur les migrants passant par Briançon. Et puis, mon dernier poste en tant qu'infirmière était juste devant l'église Sainte-Catherine, où on recevait les migrants arrivaient, quoi.
Il y avait eu un campement.
Il y a eu un campement d'été. Notamment, enfin été jusqu'à automne d'ailleurs, ça, il a duré assez longtemps. Et donc, et habitant Servières, on voit tous ces jeunes arriver, et démunis, etc. Donc voilà, j'étais sensibilisée et j'ai pu parler aussi avec certains. Certains ont, avant que j'habite à Servières, j'habitais La Vachette. Il en passait autant. Il y a eu des accidents dramatiques là-bas. Et donc, il nous est arrivé, moi et mes enfants, d'accueillir momentanément, puisqu'ils ne voulaient pas rester. Mais voilà, le sujet m'intéresse, c'est pas le bon mot, je veux dire.
Mais en tout cas, le sujet est là et voilà. Je suis sensible. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est un sujet dont tu t'es emparé ou dont tu as pris conscience dans le Briançonnais ou que tu avais déjà auparavant?
Dans le Briançonnais. Quand les premiers. C'était plutôt des Syriens, enfin je sais plus vraiment les premières personnes à venir, mais c'est vraiment sur à Briançon que j'en ai pris Oui, bien sûr, on n'en parlait pas tant que ça avant. De l'histoire de Briançon, où il y a eu toujours des gens passant les frontières. Mais non, j'en ai pris conscience comme la plupart des gens, je pense.
Oui, voilà. C'est un sujet présent ici, la frontière.
Et pour en revenir à ce que j'ai fait, effectivement, j'ai vu, c'est plus imaginatif. Je me suis dit, je ne vais pas trop m'influencer ou prendre d'exemples sur des photos, des choses comme ça. J'aime bien travailler avec ce que j'ai dans la tête. Voilà, donc après, je dessine et puis... Après, c'est avec le pinceau ou avec mes mains que je vais réaliser ce que j'ai envie de faire.
Et ce que tu avais en tête. Ouais. Donc, tu as réalisé à la fois des peintures et des sculptures.
Oui.
Et qu'est-ce qui, avec quelle matière as-tu travaillé ?
Donc les petites peintures, toiles et peintures acryliques, parce que je voulais que ça aille assez vite, que le trait soit assez spontané. Et puis pour les sculptures, donc de la terre, du grès, que j'ai modelé et j'ai fait des personnages. Famille ou des personnages seuls qui peuvent être hors contexte aussi, moi j'aime bien allier le végétal, le métal, le bois, etc. à la terre. Donc après c'est un peu mes coups de folie, hein. je rajoute un peu de sérénité un peu à mes sculptures. Donc comme dit Julien, il y a aussi un peu de la poésie et j'essaie de mettre quelque chose plus léger après sur certains, la plupart
certaines
de mes sculptures.
Voilà.
Après il y en a une qui est vraiment dans le sujet, c'est la famille, l'exil, qui s'appelle l'exil.
D'accord. Elles sont toutes nommées, j'imagine.
Pas forcément.
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Combien de temps ça t'a pris ?
On était dans l'urgence.
Ah, donc tu avais une deadline en plus.
Oui, un peu, mais entre décembre et février, fin décembre et début, mi-février, il fallait que... Oui, j'ai travaillé tous les jours, je pense. Après, pour les pièces, la peinture, bon, ça peut aller assez rapidement, mais pour les pièces, les sculptures, merci les radiateurs pour le séchage.
Le temps était vraiment compté.
Oui, alors ils étaient toutes sur les radiateurs en espérant que les chats ne les fassent pas tomber.
Et pendant ce temps, Julien, tranquillement, avait ses photos prêtes depuis quelques temps déjà. Et comment tu les as préparées ? Parce qu'elles ont été l'œuvre quand même d'un travail, certes passé, mais d'un travail. Toi, c'est des portraits. Comment ça s'est passé déjà ? Comment as-tu contacté ces personnes ? Les as-tu trouvées et abordées ?
Alors effectivement, c'est un travail qui a commencé en 2017, qui s'est poursuivi jusqu'en 2023 et qui peut être amené à se poursuivre encore. La genèse de ces portraits, c'est les reportages de presse, en fait. En 2017, moi qui avais donc une pratique qui était exclusivement artistique, je suis contacté par le journal La Croix, qui va me demander du jour au lendemain si je suis disponible pour un reportage à Briançon. Alors à l'époque, j'étais en vacances ici, donc ça tombait bien. Et le sujet, c'était l'arrivée des jeunes Africains qui était assez importante. Et comme Annie, je n'étais pas particulièrement au courant de tout ça, j'étais pas particulièrement sensibilisé et je ne savais absolument pas qu'il se passait ça à Briançon, qui était pour moi à l'époque le lieu de vacances, comme pour beaucoup de gens. Et donc du jour au lendemain, je fais un premier reportage qui va en entraîner pas mal derrière, puisque je suis le premier photographe sur le sujet et que du coup les associations, les bénévoles vont un peu parler de moi, et je les remercie d'ailleurs au passage, à Libération, à Le Monde, etc. Dans tous ces reportages qui vont être assez fréquents, hein, à partir d'août 2017, je vais faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire des images qui, j'espère, décrivent bien les situations pour que ce soit... s'il n'y a que une ou deux images dans un article, qu'on comprenne ce qui s'y passe en plus du texte. Et je vais aussi, puisque ce n'est pas mon métier, me dire je fais des choses pour moi. Et dans les choses pour moi, il va y avoir des photos d'atmosphère, des photos plus floues que nettes et des choses comme ça, mais il va y avoir un début de travail du portrait. Alors, parenthèse sur le portrait, c'est grâce à toutes ces rencontres que je vais enfin y arriver. Donc j'ai vraiment, je remercie mes modèles puisqu'ils se sont laissés faire pour la plupart d'entre eux et que du coup je vais enfin trouver la bonne distance, la bonne attitude, le bon cadrage, la bonne lumière pour non pas faire des portraits qui fonctionnent mais des portraits qui moi me vont à moi.
Parce que tu avais déjà voulu faire des portraits auparavant, c'était quelque chose, un format que tu travaillais ?
Je fais de la photo depuis que j'ai 10 ans, en fait, en vrai. Et je me rappelle avoir essayé de faire des portraits de famille en argentique que je développais moi-même dans la salle de bain familiale quand j'avais 15 ans. Mais à l'époque, j'avais pas de notion, j'avais pas de compétences particulières. Après, j'ai essayé, quand j'étais encore à Paris, de faire des portraits en studio, donc avec des éclairages, avec des fonds. Donc, je me suis bien amusé, on va dire. Mais ce qui s'est passé avec toutes ces rencontres, c'est que là, il s'agissait d'être... on était en face à face. J'étais face à des gens qui donc étaient dans des situations extrêmement particulières, puisqu'ils arrivaient, d'Italie, ils ne savaient pas où ils allaient, ils étaient à la fois héroïques et extrêmement angoissés, et souvent extrêmement fatigués aussi. Et c'était des moments qui souvent étaient très rapides, hein, parce que dans le cadre d'un reportage, on ne passe pas 10 minutes avec une personne à faire un portrait, mais c'était des moments qui étaient toujours intenses, du coup. Et concrètement, pour expliquer, donc mes modèles, entre guillemets, que je rencontrais, alors soit parce que j'avais déjà commencé, ils faisaient partie de mon histoire journalistique, soit parce que j'avais repéré une personne dans une salle ou quelque part. Alors, je dis dans une salle parce qu'il y a eu pas mal de photos faites au Refuge Solidaire à Briançon, mais il y en a aussi eu à Servières, il y en a aussi eu à Névache et à Gap. Donc, la personne que j'avais envie de photographier, j'allais vers elle, je lui expliquais, voilà, je suis photographe, c'est pour la presse, mais c'est aussi pour moi, pour peut-être plus tard faire des expositions. Je fais des portraits que je vous envoie, parce que pour moi, c'était un principe de base, c'est qu'on est là ensemble, hein, je ne suis pas à prendre ce qui m'intéresse, et ensuite, je m'en vais. Et puis après, il y avait en général une photo, c'est-à-dire que la distance physique était à peu près d'1,50 m avec mon modèle, un cadrage assez serré pour la majorité des photos. Et je disais à mon modèle, voilà, je voudrais que tu te détendes complètement, mais vraiment complètement, t'es bien, en fait. Tu vas fermer les yeux et quand tu vas les rouvrir, tu vas regarder au-delà de moi. En fait, à travers moi, tu ne regardes pas l'appareil, tu ne me regardes pas moi, mais tu es dans ton monde à toi, en fait. Et donc, 1, 2, 3, il ouvrait les yeux, je faisais la photo. Et c'est majoritairement ces portraits-là que je présente. En une fois, puisque une demi-seconde après, on est dans un regard qui est dans un échange entre deux personnes et ça n'est plus du tout la même chose. Je ne pouvais pas, expliciter ce que je cherchais, mais à force d'aller donc au prétexte d'exposition recherchée dans toutes ces archives, ces portraits, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était vraiment quelque chose de très sensible, quelque chose de l'ordre de l'âme, de l'universel, sans explication. Voilà. Et d'ailleurs, dans la même optique, on va dire, sans jeu de mots, j'ai enlevé l'information de la couleur. Donc les portraits sont en noir et blanc, alors que moi, je suis vraiment coloriste, hein, dans ma vision du monde, parce que ça permettait qu'on soit concentré sur l'émotion, ce qu'on ressent soit en étant regardé par ces personnes, sans être distrait par autre chose.
Ok. Et les couleurs, tu penses, auraient modifier cette approche-là?
C'est pas je pense, c'est je sais. Puisque quand on m'a proposé une première exposition sur le sujet en 2023, une fois que j'avais évacué l'idée de présenter des photos à caractère documentaire ou journalistique, parce que ça n'avait pas de sens, puisque tout le monde savait à ce moment-là ce qui se passait à Briançon, et que moi j'aime l'exposition, j'aime le tirage, je fais les tirages moi-même, donc je ne me voyais pas. En fait, faire des beaux tirages journalistiques, ce n'était pas du tout mon truc. J'ai fait des essais couleur et noir et blanc à partir de mêmes photos, et dès que je suis passé en noir et blanc, en fait, je ne sais pas expliquer, c'était beaucoup plus puissant pour moi, c'était plus intemporel aussi. À savoir que d'ailleurs, je ne donne pas d'informations sur mes modèles, sauf quand je fais les visites guidées, mais je donne pas. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'année, il n'y a pas d'endroit, il y a juste un texte qui explique. Parce que pour moi, et c'est en général dans la vie, les gens que je rencontre, ce sont des personnes, ce sont des instants, et ce sont des émotions aussi. Et chose qui est amplifiée, moment qui est amplifié par le fait que ce sont des gens venant de très loin. Et ça, c'est, je pense, c'est vrai quand on part en voyage, quand on part dans des cultures très différentes, il y a une intensité de la rencontre qui est beaucoup plus forte que quand ce sont nos semblables. Je ne sais pas l'expliquer, peut-être parce que à ce moment-là, on réalise qu'on croyait qu'on n'était pas semblable, et en fait, on l'est quand même. Peut-être aussi parce que parfois, on n'a pas le même langage et que du coup, il n'y a plus que le regard et les gestes. Et c'est doublement amplifié par le fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient en situation d'exil, en situation d'angoisse, en situation d'incertitude absolue. Et que peut-être que cette rencontre, le fait que je prenne aussi, moi, le temps, même s'il était court, de parler, de regarder quelqu'un, de le toucher aussi pour mettre le visage exactement dans l'axe qu'il me fallait par rapport à la lumière, crée soudain quelque chose de très intime, qui donnait totalement réalité à l'instant qu'on vivait l'un comme l'autre. Après, comme je disais, j'envoyais en plus les photos. Et voilà, donc c'est un peu tout ça qui est resté de toutes ces années où je faisais beaucoup de travail journalistique. Et à savoir que ça correspond aussi à ce que j'ai vécu personnellement de toutes ces rencontres, puisque je suis devenu non seulement parrain de plusieurs anciens, ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, et que je suis devenu père adoptif par ailleurs de l'un d'eux. Voilà, donc ça s'est déplacé sur un registre très personnel, très familial, et où ça sort complètement de l'idée de raconter ce qui se passe dans le monde, en fait. Et j'ai, en travaillant toutes ces archives, j'ai aussi, ça m'a permis de comprendre et d'assumer quelle était ma place en tant que photographe avec des images sur le sujet, à savoir faire passer des émotions, ne pas donner de leçons, ne pas provoquer trop fortement des arguments, mais espérer que les gens vont être touchés.
C'est ce qu'on retrouve dans vos deux travaux, en tout cas dans votre approche de se laisser porter aussi par l'émotion. Mmh. Et je vous propose, pour méditer sur tout ce que vous venez nous apporter sur votre art et votre travail sur cette exposition, de faire une pause musicale et d'écouter Rodolphe Burger, Sofiane Saïdi et Mehdi Haddad avec Sahara Malakoff. C'est une musique que tu as choisie, Julien, parce que tu l'apprécies particulièrement. On va écouter seulement un extrait.
شابة وفتح ودا اللي يشوفها يتحير يا خالي ديني التيمي من باب السوداني راح علي الضر ناس صحراء كرما واللي يزورهم يبن مفتوحة وقلوب كتر سيدي الحاج بالقاسم جيتك زاير أرض قرارة داوي قلب مهدلة On parle sans parler Le ciel est blanc Les frontières sont floues Adin Ferhanin Bachar Aïd Al-Qloud Ighani Fi Maqam Hnila يا خالي تغيت منورة ويجي كيفاش جبكم دا بالسينة في بني والنفلتي اللي عطوني عمري ما ننساه ونسيت الهما في جبال مطار بني خويا وحكيلي على ناس اللي كانوا بكريا وصبنوا حبيبي Sahara Malakoff À cette distance qui peut nous reconnaître à Bélé Mirnouhan al-janat Mek libnat al-aïcha Ou fouchi Ben mertiah l'aïna
Il est 12h50, vous écoutez le magazine du midi et aujourd'hui nous sommes avec deux artistes, Julien Bénard et Annie Coquelin, pour présenter leur exposition Écho d'ailleurs. Alors, nous avons parlé de votre travail séparément, comment vous avez travaillé chacun sur vos œuvres. Donc aujourd'hui, ça a donné lieu à cette exposition. Donc vous exposez à la maison Françoise Emamé à Servières sur la thématique de l'exil, de l'étranger. Vous avez choisi deux citations autour de cette exposition. Une d'André Breton, « Un étranger est venu me voir, il m'a donné de mes nouvelles ». Citation assez connue d'ailleurs. Et de, alors attention ma prononciation, Stephen Hitchison.
Oui, quelque chose comme ça.
Voilà, très bien, on est d'accord.
C'est l'air inconnu pour moi aussi.
Voilà, mais qui a une belle citation. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. Ce sont chacun, vous avez choisi chacun une citation, comment ça c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Et pourquoi ces citations, elles vous ont parlé particulièrement
Des gens ont cherché une citation, pour un écrit, on pouvait en trouver des centaines, hein, sans doute, ne serait-ce des poèmes, dans des chansons connues ou inconnues. Mais c'est là que moi, c'est la couleur de la peau. Et puis, Julien m'avait proposé la phrase d'André Breton.
Qui fait écho à ce que tu disais de l'émotion, l'universel, dans le regard dont on parlait tout à l'heure.
Et puis, qui est aussi littéralement vraiment ce que je pense qu'on vit souvent quand on rencontre des gens qui sont très différents de nous. C'est-à-dire que. Ils nous actualisent, ils nous font nous poser des questions. Où est-ce qu'on en est de notre vie? Qui on est vraiment? Est-ce qu'on fait les bons choix? Etc. Parce qu'ils sont vraiment de loin. Ou alors, ça peut être des gens qu'on ne connaît pas du tout, hein, qu'on croise ici. Mais c'est souvent ces gens-là qui font qu'on... Voilà, ils nous donnent de nos nouvelles. Ils nous donnent des leurs, mais en fait, ça nous fait nous...
Réfléchir.
Nous ajuster, réfléchir,
oui. Oui, oui.
Et sur quoi vous a fait réfléchir cette exposition? Donc peut-être sur vous et sur un message que vous voudriez faire passer aux personnes, aux visiteurs et visiteuses.
Alors je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord, on n'est pas dans le message. Je pense que nous, on se positionne vraiment en tant qu'artiste sur ce sujet. D'ailleurs pour nous, ce n'est peut-être pas un sujet, j'ai envie de dire. Ça a été un prétexte, c'est une sensibilité. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'Annie, tu le partages, à savoir que montrer notre travail, surtout, bon, moi, c'est clairement des gens, mais toi, c'est des personnages, c'est plus énigmatique, c'est de la matière. On a envie que les gens voyagent en rentrant là, on a envie que les gens soient touchés, soient émus. Ce qui se passe depuis le début de l'exposition, on a la chance d'avoir beaucoup de monde, c'est qu'aussi les gens restent et témoignent de leurs histoires, de rencontres avec des exilés ou des étrangers, posent beaucoup de questions sur comment chaque œuvre a été produite. Hein. Mmh. C'est marrant, pour toi comme pour moi, donc c'est hyper intéressant. Et ça suscite donc des débats, en fait. Et ça... Moi, j'ai toujours été sensible au lien. C'est pour ça que j'anime cette salle et que j'accueille régulièrement d'autres artistes. C'est que j'ai toujours aimé que des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent. Et là, c'est un prétexte encore plus fort, puisqu'en plus, on est sur des choses profondément humaines, sur des réalités qui sont difficiles, qui sont politiquement touchy. Mais nous, on est là. Les gens sont là, ils nous racontent leurs histoires, on discute, on explique notre travail.
Il y a le lieu aussi. Le lieu est important parce que le lieu est chargé d'histoire. C'est les deux derniers, Françoise Emamé, que moi je n'ai pas connu, je pense pas. Mais c'est chargé. L'endroit lui-même, au point de vue architecture, une vieille étable, etc. C'est déjà, les gens sont surpris et ont besoin de connaître l'histoire de ce lieu. Et en plus, quand ils rentrent là où on expose, les photos ressortent déjà en premier. Et après, ça parle tout de suite. Ça parle tout de suite et ils voient après les sculptures, peintures que j'ai faites. Mais c'est en second temps, et ils disent tous... en fait, ça matche bien, quoi. Mmh. Ça matche bien les deux. Il y a l'histoire de nous deux se répercute bien.
Sans oublier que Servières est vraiment juste à la frontière avec l'Italie. Donc, on raconte ça aussi aux gens on a le temps de discuter, interpellations, les courses-poursuites, les gens qui hébergent, les gens qui aident, les gens dont on suppose qu'ils dénoncent aussi. On dit on est en plein dans le sujet, en fait. Mais... nous, c'est vraiment notre sensibilité, l'imaginaire qui fait qu'on est là.
Hein, voilà. On ne veut pas entendre du pro ou du contre.
On veut toucher.
Voilà,
c'est toucher, voilà.
L'expérience émotionnelle.
C'est pas un message politique du tout, c'est plutôt un message humain, tout simplement. Mmh. C'est une sensibilité humaine et voilà. Je pense. Hein.
Oui, à travers différents types d'art, travers une maison. Alors rapidement, je reviens sur cette maison, ce lieu quand même, la maison de Françoise et Mamé. C'est donc une ancienne maison de village qui a été habitée dernièrement par Françoise et Mamé, qui a été rachetée par Robin Brunet, maraîcher à Servières, originaire de Servières d'ailleurs, qui a vécu, je ne sais plus où...
Au Congo,
voilà. Donc on est aussi dans la thématique de l'ailleurs, du voyage. Pas fait exprès, mais on y est. Et donc il est en train de rénover un peu avec... Toi, Julien, c'est ça? Tu l'aides toujours
Eh bien, là, c'est pas la saison, mais oui.
Oui, là, avec le temps, peut-être pas. Mais toi, tu as à ta disposition, entre guillemets, l'ancienne étable qui est tout en bas pour faire des expositions, des rencontres, ce dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, cette salle a une sacrée ambiance. Vous l'avez rénovée au tout début. Et voilà, c'est devenu un lieu culturel de rencontre à Servières. Ça, on est où, puisqu'on s'était rencontrés il y a quelques mois? Ça marche toujours aussi bien?
Eh bien, ça marche... je peux donner des chiffres maintenant, puisqu'il y a un petit peu de recul. Hein, on avait ouvert le 30 mars 2024 pour le premier vernissage, la première expo, où Robin Brunet, le maraîcher, présentait ses produits. Et depuis lors, on a... le nombre de jours d'ouverture, je ne sais pas, mais le nombre d'expositions, il y en a eu 3. Le nombre d'événements artistiques, ou artistiques principalement, donc des concerts, des contes, rencontres avec des écrivains ou des choses comme ça, il y en a une quinzaine. Avec en moyenne en minimum 30 personnes, au maximum 70. Et en nombre de visites cumulées depuis le début, on a dépassé les 1200.
Waouh, ça se fête!
Ça se fait, moi je suis hyper content parce que tout ça s'est fait vraiment, on n'avait pas prévu. C'est parce que il y avait cette maison qui se rouvrait, parce que cette maison, moi je l'ai connue enfant, parce que avec Robin Brunet on s'entend super bien et que de fil en aiguille, la créativité partagée a donné lieu à des idées.
Très bien. Eh bien, maintenant, nous avons cette exposition jusqu'au 9 mars. C'est ça, je ne me trompe pas.
Et plus si affinité,
donc à suivre. À la maison de Françoise et Mamé, c'est au 27 Traverse des Centenaires, à Servières. Il y a notamment ce week-end un stage vocal avec Lisiane Cueff et un concert avec son groupe Trio Malice. À découvrir, le concert est à partir de 18h...
18h30 dimanche.
Donc, vous pouvez voir l'exposition, elle y sera en même temps, en parallèle.
Du mercredi au dimanche, de 16h à 19h.
C'est cela.
Eh bien, merci Julien Bénard. Donc, je rappelle photographe et Annie Coquelin, peintre, sculptrice et potière. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Et c'est la fin du magazine d'aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Nathalie avec une interview de l'association itinérante Les Marmites sur le programme de l'année 2025 et un documentaire sonore.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon après-midi à toutes et tous.